en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Michel Déon de l'Académie française a trois peintres dans son cœur, Édouard Manet, Georges Braque et Salvador Dali. C'est au cours d'une communication donnée en mai 2009 à l'Académie nationale de médecine qu'il a évoqué la peinture de ces trois artistes, évocation tournée sous forme d'anecdote pour son ami et confrère académicien Salvador Dali, qui, rappelons-le, était membre associé étranger à l'Académie des Beaux-Arts. Michel Déon laisse également son esprit vagabonder au regard du Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet et d'une Nature morte de Georges Braque. Laissons place tout de suite à l'académicien Michel Déon pour trois peintres de son cœur.
Le premier tableau dont je vous parle, c'est le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors, je vais essayer de lire d'une façon intelligible et vous dire, voilà, à quelle saison de la vie un tableau, et plus particulièrement un portrait, nous attire-t-il plus que d'autres considérés comme des chefs-d'œuvre dont nul ne saurait douter? Ou est-ce que pour les chefs-d'œuvre, l'acquis est déjà là, guidant nos goûts, inconsciemment dociles ou rebelles? La première rencontre avec la Joconde ne déçoit pas seulement parce qu'on parvient rarement à être seul avec elle, mais parce qu'un consentement universel nous pétrifie devant ce chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Une légère ombre plane pourtant sur elle. Enlevée par un peintre en bâtiment italien, elle est restée 2 ans en tête à tête avec lui, peut-être dans une mansarde glacée, éclairée à la bougie, isolée du reste du monde qui pleurait. Ce que son ravisseur lui a raconté et ce qu'elle a répondu reste un secret à peine trahi par son énigmatique sourire. Sans l'aventure qui l'a déflorée, Marcel Duchamp ne lui aurait pas collé une irrespectueuse légende, L-H-O-O-Q, peut-être est-ce vrai, on ne le saura jamais. Pareille mésaventure n'a pas entaché une Maria Maddalena, pensionnaire du Palais Pitti, certes moins illustre, mais belle aussi, et sans ombre de soupçon. Longtemps, cette jeune femme m'a captivé, au point que je calculais mes traversées d'Italie pour m'arrêter à Florence, et lui rendre visite après l'ouverture du musée ou avant la fermeture quand les gardiens chassaient les traînards. Les années ont tiédi notre idylle, mais j'y pense encore avec émotion et n'oublie pas d'avoir cherché sans la croiser dans les foules de la rue, à Rome, à Milan, à Venise, une réplique vivante de ce calme visage au regard distrait. Toujours un reflet manqué, la grâce irradiait, mais la bonté se dérobait et le maintien trahissait un léger manque d'âme, moins de séraphique promesse. La Maria Maddalena du Perugino n'a pas résisté à mes infidélités et reste à part dans mes souvenirs de jeune homme en Italie. Modeste, en retrait d'autres aimés, qui ne frayait pas avec elle, si réservée, si indulgente. Bien éloigné, le tableau dont j'aimerais essayer de parler, pour, comme disait Emmanuel Berle, savoir ce que j'en pense. Depuis que j'en ai fait un compagnon de ma vie imaginaire, et lui rends souvent visite, quand il n'y a pas trop de monde, il s'est présenté un jour par surprise, alors que peu savant de Manet, je feuilletais un album à lui consacré. Le Déjeuner sur l'herbe est une œuvre si impérieuse qu'on court aussitôt pour la voir de vrai. Dans la salle du musée d'Orsay, où le Déjeuner sur l'herbe trône sans partage, les autres Manets, de dimensions parfois beaucoup plus modestes, retiennent à peine l'attention. Les visiteurs s'attardent devant le Déjeuner sur l'herbe qui occupe ici tout un panneau où il semble étrangement relégué, comme si un siècle et demi après sa première apparition au Salon des Refusés, il risquait encore de provoquer la colère des bien-pensants de l'art officiel et la vertueuse indignation des puritains. Les temps ont changé Et cette toile de plus de 2 mètres sur près de 3 impose un silence que je n'oserais pas qualifier de religieux, mais qui tourmente les voyeurs. On y gagne de ne pas subir de commentaires imbéciles, comme il est coutume d'en entendre devant tout ce qui touche à l'inexprimable, atteint aux conventions et au génie de leur créateur. Il est vrai que le déjeuner sur l'herbe crée un trouble dont on pouvait se croire immunisé, et peut-être est-ce le regret d'avoir manqué une scène pareille. Le vrai scandale n'est pas la femme nue au premier plan, mais que ses deux compagnons soient, eux, on ne peut plus habiller. Nus aussi, ils intrigueraient à peine. Entre amis, Manet appelait son tableau la partie carrée. Oui, qu'attendent-ils ces deux gandins pour s'offrir le plaisir de jouisseur? Nous connaissons la superbe créature au premier plan. Elle capte toute la lumière et comme il se doit pour un modèle qui a habité l'esprit et peut-être du moins le souhaite-t-on le cœur d'un peintre. Elle se nomme Victorine Meurant. Elle a déjà incarné Mademoiselle V en costume d'Espada, la chanteuse de rue, la femme au perroquet et bien entendu Olympia. Elle est particulièrement célèbre depuis qu'allongée nue sur un lit, à peine vêtue d'un bracelet au poignet, d'un lacet de velours autour du cou et d'une fleur d'hibiscus à la tempe, elle reçoit, telle la Vénus d'Urbain du Titien, un bouquet de sa servante noire. Nous savons tout d'elle. Paul Valéry la qualifie de vestale bestiale. Voilà un jugement rapide et fort brutal. Tous les modèles ne peuvent pas poser pour la Vierge et l'enfant Jésus. Victorine aurait peut-être l'existence la plus atone si l'art, le grand art de Manet, n'avait pas peint son corps à l'image de nos fantasmes. Dans le déjeuner sur l'herbe, on s'attend beaucoup plus sur son visage que sur sa violente nudité, tant ce visage si parlant s'amuse de notre surprise. Le peintre a saisi l'expression moqueuse de Victorine, comme aurait pu le faire l'éclair de magnésium d'un photographe de l'époque, ou plus tard un Cartier-Bresson prenant au vol la Seine comme il prit au bord de la Marne avec son Leica, le célèbre cliché des deux couples de pique-niqueurs saucissonnant, un kil de rouge à portée de la main, leurs grosses fesses écrasant l'herbe du talus, les mémères boudinées dans leur soutien-gorge. Autre vision du retour à la nature. Victorine triomphe une dernière fois. Elle sera bientôt détrônée. Manet doit épouser, pour de bon, une Hollandaise professeure de piano qu'il peindra honnêtement assise devant son piano. On ne peut plus comme il faut, absente de ce monde quand elle joue. Suzanne Le Hoff, la grosse Suzanne, disait la talentueuse et délicieuse et malicieuse Berthe Morisot. Ajoutons que la pianiste se coiffait en brioche, bien peu de frais en somme pour supplanter Olympia. Le jeune homme assis à côté de Victorine dans le déjeuner sur l'herbe est peut-être le frère de la pianiste, François Léoff, élégant dandy au visage allongé, à la barbe en collier. Il sert de près la jeune femme et son visage interroge le peintre qui les a surpris. Encore perché vers elle, il a retiré sa main qui venait d'esquisser une furtive caresse. Ne précipitons rien. Victorine est libre, a toujours été libre et ça se lit sur son visage. D'ailleurs, le Hoff est encore en jaquette, à peine égayé par un pantalon blanc, très parisien à la campagne. Devant eux, éparpillés sur l'herbe, gisent le chapeau de paille au ruban bleu de Victorine, la robe chiffonnée du même bleu jetée en vrac après un rapide et gai déshabillage. On croit entendre les rires. En jouant, ils ont reversé leur encas, un panier d'osier, avec quelques fruits, du pain et ce qui pourrait être une coloquinte, fruit immangeable, tant aimé des peintres de nature morte. Un artiste rend hommage à un corps qui triomphe pour la dernière fois dans son œuvre. Un grand artiste, actrice même, Victorine a su jouer tous les rôles qu'on lui offrait. Portée par sa franchise et son bonheur de se métamorphoser en torero, en petit fif ou même en mère avec sa fillette, un chiot sur les genoux, regardant du pont qui enjambe la gare Saint-Lazare, les nuages de vapeur des trains en partance. Cette femme du peuple, comme on ne dit plus aujourd'hui, est une source inépuisable de variations sur la gloire d'être femme et belle. Par discrétion, le second modèle s'est éloigné, abandonnant à Victorine le règne du déjeuner sur l'herbe. Nous pouvons aussi la croire moins libérée que son amie, ou tout au moins plus pudique, ce qui n'est pas difficile. En se baignant nue comme Victorine, elle lui volerait de sa gloire. Les temps dans lesquels cet inconnu barbote n'a pas deux pieds d'eau, et la longue chemise qui la masque est trempée et sa transparence laisse plus à deviner qu'à voir. Pourtant, en bonne logique, elle est destinée au deuxième invité de cette fête si intime, Gaëtan ou Eugène, les deux frères de Manet. Pour simplifier, disons que c'est Gaëtan dont la barbe mange la moitié du visage. Tout occupé de pérorer, il n'a pas vu le peintre qui les a surpris. Médiocre adepte des parties de campagne, Gaëtan n'a pas lâché sa fine canne de dandy et reste coiffé d'une toque, dernier cri à la mode chez les boulevardiers. Le bras droit levé, poussé index, pointé vers ses amis, ne sont pas l'innocente caricature d'un beau parleur. Le geste vient de loin, et même, assez curieusement, d'une toile de Raphaël, perdue depuis des siècles, et dont nous ne saurions rien si elle n'avait été copiée à l'époque par un graveur de génie, Marc-Antonio Raimondi, et conservée au musée des Estampes du Louvre. Le jugement de Paris. Quel rapport. Très mince en vérité, sauf que la mise en scène de Manet rappelle dans l'œuvre de Raphaël les trois héros qui commentent le célèbre épisode de la vie des dieux de l'Olympe. Manque chez Manet, Zeus le magnifique, Apollon et son char de feu, quantité de témoins et de serviteurs. Dans le tableau perdu, volatilisé, on ne sait même pas comment, il avait glissé une femme assise, nue, les chairs épanouies, et deux sages, dont l'un, le conteur, brandit sa houlette de berger pour appuyer ses dires. Le détail du sacre d'Aphrodite. Avec un peu et même beaucoup de générosité, Victorine est une fille de la déesse la plus femme de la mythologie. Dans le brouhaha général, généré par une toile aussi équivoque pour les années 1860 et peut-être pour toutes les époques, on s'étonne que les contemporains de Manet aient pu remarquer le magique décor de la fable. Un sous-bois à la sombre splendeur au centre duquel irradie le corps de Victorine Meurant. La douceur intime de la clairière ou la discrète baigneuse en chemise joue comme une enfant à s'asperger de gouttelettes. La garde montée par les grands arbres touffus, la nonchalance des hommes face à la liberté des femmes. Le rideau retombé, les pensées s'attardent sur Victorine. Quelle fut sa seconde vie et peut-être l'objet de quelques lignes dans une biographie de Manet. Mais l'imagination reste libre de retrouver la suite de son roman dans le Paris du XIXe siècle. Je la vois abandonnant le milieu des rapins et de leurs marchands, acceptant la bague au doigt d'un nouveau riche et déménageant de la petite Athènes des peintres et des poèmes et des bohèmes pour habiter le quartier Malesherbes, un somptueux hôtel particulier. Une fortune rapide a permis aux bienfaiteurs de meubler Victorine en grand style. Le hall d'entrée, le salon, la salle à manger, le boudoir, la chambre du sacrifice regorgent de rareté du pire et du meilleur goût. les faux sont plus vrais que les authentiques, et le contraire, les préciosités soulignent les horreurs. Mais pas un Manet, pas un seul Manet. Ou plutôt si, mais là, Victorine étant immortelle, je ne vois aucun anachronisme à ce que son mari, puisqu'il faut bien lui reconnaître ce titre, achète un soir et fasse discrètement accrocher dans le salon une toile totalement débile signée d'un certain Picasso et intitulée « Le déjeuner sur l'herbe ». Comble de bon goût, il a négligemment laissé la facture sur la commode, 2 millions de dollars. Le soir viennent dîner un prince, une duchesse, un ambassadeur et peut-être même un académicien ou un ministre. Découvrant le sacrilège sans un mot, Victorine monte dans sa chambre, se met nue et décrochant d'une panoplie à yatagan, revient dans le salon. Devant les invités terrifiés, elle crève la toile du peintre espagnol, brise les Rouen détestés depuis le premier jour, lacère deux tapisseries d'Aubusson, crève un corot d'Italie, blesse son mari qui a voulu l'arrêter, fond en sanglots et chasse les invités. Le romancier qui est en moi dit qu'après cette scène, dont le tout Paris mondain et financier fut informé, Victorine s'est retirée dans sa bergerie d'Auteuil où elle secourt les pauvres. Le second peintre dont je voulais vous parler est Braque. Là, nous ne sommes pas dans le même monde. Et Braque est entré dans ma vision à une très lointaine époque. Il y est resté, apparaissant quand je l'attendais le moins, s'éclipsant parce qu'il le faut bien de temps à autre fermer la porte d'un musée à Paris, à Chicago, à San Francisco, partout dans le monde où il est aimé. On ne s'invite pas non plus chez un collectionneur. Réduit à mes propres moyens, je conserve de modestes liens avec lui. Deux lithographies, une feuille d'érable et le dessin au trait d'un visage pur présenté de trois quarts, une eau forte tirée à part de la théogonie. Plus, bien entendu, les écrits. Ses cahiers, intitulés « Le jour et la nuit », des albums, « L'épopée du cubisme » de Pierre Cabanne, « Braque le patron » où Paulhan parle à mots couverts de peur de le trahir. Si, entre beaucoup de peintres d'une époque aussi riche que la sienne, on en est lié un, ses œuvres ne cessent plus de vous adresser des signes, quel que soit le lieu ou l'heure. Et si deux oiseaux croisent leur vol et mêlent leurs ombres à contre-ciel, c'est à lui qu'on pense, comme lors de l'approche aérienne ou maritime de Dieppe, quand émergent de la mer les falaises crayeuses, coiffées d'une frange verte, héroïque, mutilée, au bord de la grève de Galégri. Pour ceux qu'il a éveillés, Braque est partout présent, dans la lumière du midi, comme dans les ombres portées des orages normands. C'est un vieux truisme que, pour un artiste, la nature s'efforce de l'imiter ou de le rappeler timidement à nous, en pliant le genou devant le témoin des miracles de l'être. L'homme qui a su renchérir sur le message de Dieu et de la beauté. Une radieuse bonté, oui je dis bien bonté, sourd des objets familiers dont Braque s'entoure et dispose pour son propre spectacle. Le pinceau du peintre est une baguette magique. De sa brosse jaillissent ses jouets de peintre, vases rustiques au col étranglé, maintenant une fleur fanée, écuelle de bois ou de pauvre faïence, antique charrue misérablement oubliée dans la seule tache d'ombre d'un champ brûlé de soleil, barque de bois goudronnée échouée sur la plage, couteau de cuisine, chevalet, broc, guitare, accordéon, tous ces divertissements de grands enfants à Paris, dans le midi, à Varengeville. À Varengeville, disait Jacques Prévert, Braque est en famille et face à la mer, il lui parle en frère. D'accord, je sais bien, ce n'est pas très fort, et Braque mérite plus. Mais il y a chez Prévert, comme toujours, dans l'assonance des mots, une vérité joyeusement dissimulée. Les entretiens de Braque avec la mère ne sont pas interrompus depuis qu'il a gagné son grand repos au cœur du cimetière marin en 1963. Cette année, et là, nous étions à Dieppe, de l'article que M. Sachant, ami de l'œuvre du peintre, me demanda les nouvelles littéraires, j'ai conservé une copie qui ne dit pas encore toute ma reconnaissance à la suprême honnêteté de cet artiste sans beaucoup de pareil. La maison basse, aux murs Berclair, aux volets bruns, aux toits rouges, la petite maison de Varangeville-sur-Mer, où Braque séjournait 6 mois de l'année, ne le reverra plus. Nous en revenons à l'instant. Les volets sont clos, la porte de l'atelier est fermée. Délaissé depuis quelques mois, le jardin pleure. Un grand départ endeuille le paysage. Le seringa est triste et un jeune être hésite à grandir. Mais le paysage est toujours là, que Braque apercevait de son atelier, ouvert au lointain, au doux vallonnement, aux larges champs verts véronaises, aux sombres bousquets sous le ciel rarement pur de la Normandie. On retrouve fixés par un été tardif les formes, les bleus, les verts qui furent les siens. Après la maison affligée par son départ, lui qu'elle croyait éternel, nous sommes allés revoir les deux églises pour lesquelles il a conçu des vitraux. L'église de Varangeville, grise dans son cimetière marin, où dorment aussi Porto Riche et Alfred Roussel et Albert Roussel, s'éclaire intérieurement d'un jour bleuté par les vitraux de Braque. Jésus, Marie, l'arbre de Jessé. La chapelle Saint-Dominique est déserte. C'est lui qui a retrouvé les pierres de granit du porche restauré. À l'intérieur, 3 œils de bœuf latéraux et la rosace du narthex filtrent une lumière orangée et d'un poignant silence. Hier encore, nous feuilletions chez un libraire le dernier livre illustré par Braque, « Si je mourais là-bas », des poèmes d'Apollinaire accompagnés de 18 bois en couleur. Ces poèmes avaient été choisis en 1917 par Braque, à qui le poète les lisait pendant sa convalescence. Tous deux avaient été blessés à la tête. Cette édition était un livre du souvenir pour le 80e anniversaire de l'artiste, mon poète et mon peintre. Il y a des bonheurs de hasard qu'aucune volonté n'invente. Les bois d'une pureté grave et douloureuse répondent aussi tendrement violentes pensées d'Apollinaire pour Lou, la luxurieuse. Tout est dit en plein mystère. L'artiste est radieux dans son dépouillement, le poète épuisé par les amours perdus. D'un tir à l'arc, Braque dit « Je ne cherche pas la finition, je tends vers l'infinition. » Quel chemin parcouru depuis le petit atelier de la rue d'Orcel à Montmartre au début du siècle jusqu'à ces dernières années silencieuses. Une œuvre s'est élaborée dans le labyrinthe des recherches formelles, fauvisme, cubisme, deux ismes pour un homme n'aspirant qu'à la liberté. Tous les ismes sont des constructions, écrivait-il. Dans l'épopée du cubisme, Pierre Cabanne rend à Braque ce qui lui appartient et publie une photo d'autant plus émouvante aujourd'hui. Dans un atelier, un jeune homme assis sur un tabouret joue du bandoléon. Il a de longues jambes, des yeux un peu globuleux, les cheveux plantés bas. La légende assure qu'il aimait la boxe et répondait à Picasso « Ta peinture, c'est comme tu voulais. » Si tu voulais nous faire manger de l'étoupe pour cracher du feu. Le visage est beau et serein. Il disait, je ne suis pas un peintre révolutionnaire, je ne cherche pas l'exaltation, la ferveur me suffit. Et la vérité existe, on n'invente que le mensonge. Dans une aventure méthodique, Pierre Reverdy, son ami de jeunesse, écrit, il y a aujourd'hui dans l'art une forme. Braque, et c'est Braque qu'il y a mise, et personne ne peut l'en ôter. Je ne veux pas dire qu'elle soit désormais fixe et définitive, refroidie et figée. La matière est encore chaude et malléable, susceptible de revêtir dans le détail de surprenants aspects. Mais telle qu'elle est, elle constitue le monument durable. L'essentiel y est. Et Poulain, dans Braque le patron, dit « Je serais embarrassé de décider si Braque est l'artiste le plus inventif ou le plus divers de notre temps. Si le grand peintre est celui qui donne de la peinture l'idée la plus aiguë à la fois et la plus nourricière, alors c'est Braque que je prends pour patron. » Dixit Poulain. Sans avoir jamais rencontré Braque, je m'imaginais que sa peinture lui ressemblait étrangement. Je les vois, son art et lui, honnête jusqu'à la gravité, comblé par une perfection intérieure et extérieure. À 26 ans, Braque en avait fini avec les expériences. Cela fait, si je compte bien, plus d'un demi-siècle à enrichir son âme, à pénétrer les secrets des choses, à les enfermer de nouveau dans ses toiles et à être seul de son génie. 43 ans plus tard, nous retournons en pèlerinage à ce mois d'octobre où la côte d'Albâtre est au plus beau de son automne. Sans un ami, nous ne retrouverions pas la maison cachée dans les haies de laurier que personne n'a taillée depuis longtemps. Elle est encore à peu près intacte, mais une tempête a désarticulé l'atelier conçu par le peintre et réalisé par son ami, l'architecte Nelson, responsable de quelques horreurs dans le Paris des années 20. Une tornade est passée sur le sanctuaire de 35 ans de travail, plus de seringas dans le jardin à l'abandon, envahi par les herbes folles. Les arbres ont développé un épais feuillage qui dérobe la vue sur un doux vallon, des champs bordés d'aubépines. Avec ses volets clos, la maison a l'air d'être un vaisseau spatial sans pilote. Il n'y a plus rien à imaginer. La noble silhouette de Braque a traversé le jardin pour se réfugier dans l'atelier. Un instant, je vois ce beau géant, couronné de cheveux blancs, pensif, absent, retournant à ses jeux rêvés. « Je fuis mon semblable, dit-il dans ses cahiers. Dans tout semblable, il y a un sosie. » De la maison, nous allons au cimetière marin de Varangeville. Au pied des tombes, sous un ciel parcouru de nuages que le vent cueille au-dessus de la Manche et pousse en les effilochant vers les terres de Normandie, la marée montante reconquiert la grève souillée d'écume et d'algues brunes. À l'intérieur de l'église, les vitraux de Braque filtrent une silencieuse lumière d'un bleu argenté. Un jeune homme au piano à queue joue assez brillamment une sonate dont ma faible mémoire ne retrouve pas le nom de l'auteur. Mozart, probablement. J'hésite, et en vérité, peu importe. La musique arrache à la pesanteur les lieux bénis. Et un instant auparavant, entré sur la pointe des pieds dans la chapelle Sainte-Marguerite, sombre cave aux vitraux de Braque avec ses fruits adorés, citrons jaunes et pommes rouges, nous écoutions une jeune violoniste répétant une sonatine. Elle jouait pour elle-même, sans un regard aux intrus, absorbée, hésitante, reprenant un exquis thème qu'elle maltraitait un peu moins à chaque reprise. Et je crois qu'il aurait aimé cette application, si sensible, si semblable à la sienne. Les guitares, ou au moins les morceaux de guitare éclatés, reviennent dans ses œuvres, disparaissent après l'époque cubiste, peut-être refoulés dans son inconscient après le cri de Picasso « Il m'a volé ma guitare ». À Varangeville, les tombes se pressent autour de leur bergère, imposante ou modeste. Sur celle d'Albert Roussel, on lit « C'est en face de la mer que nous finirons nos existences » et que nous irons dormir pour entendre encore au loin son éternel murmure. Tout à son talent de lancer des mots qui laissent interdits ses lecteurs, Jean Poulain appelait Braque le maître des rapports invisibles. Si méfiant soit-on à l'égard des ambiguïtés polanesques, ces rapports invisibles sont bien le secret de l'artiste. La banalité devient l'exception quand elle passe par la main du peintre. Il arrive que nous nous arrêtions devant une toile de Braque avec le sentiment gênant d'une indiscrète curiosité. Ce sont là, découvre-t-on, choses intimes mises en lumière ou orages d'une vie intérieure. Il faut partir sans bruit, emportant pour soi le message déchiffré. La seule certitude est que la contemplation d'une œuvre de Braque vous rend meilleur ou seulement moins mauvais. Dans un tout autre registre, j'avais envie de vous parler et d'improviser un peu devant vous un souvenir qui reste très, très fort dans ma vie. C'est la première fois où j'ai rencontré Dali. Nous sautons dans un autre monde. Je vivais à New York, c'est dans les années 50-51, lorsqu'un jour on me dit que Dali allait donner une conférence de presse à l'hôtel Pierre, où il logeait toujours à New York. Et si je voulais venir, je serais bienvenu, ce serait assez amusant, parce que Dali avait toujours des inventions qui stupéfiaient même la presse américaine. Je suis allé là-bas, nous n'étions pas très nombreux, peut-être une cinquantaine de personnes, et j'ai vu arriver un Dali que tout de suite j'ai jugé pour un grand timide. Et il était là, embarrassé, on sentait que quelqu'un, peut-être sa femme, l'avait poussé à répondre à la presse new-yorkaise, qu'il aimait bien parce qu'il avait toujours des inventions, des choses drôles à dire. Et puis tout d'un coup, j'ai senti, à cause de sa canne, de son gilet brodé blanc, brodé d'or, et tout ça, que, et d'une certaine extravagance, et surtout de ses célèbres moustaches cirées qui remontaient comme deux crocs de chaque côté de la bouche, j'ai senti qu'il était extrêmement vulnérable. Et franchement, les journalistes américains, qui peuvent être à la fois pleins de talent, mais qui savent être cruels et qui ne veulent pas du tout tomber dans les panneaux de rigolos comme Dali, et se sont moqués de lui. Et j'ai vu qu'il y était très sensible. Ils se sont moqués de lui par des questions absurdes, enfin lui rappelant ce qu'il avait dit 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant. Et qu'est-ce qu'il faisait à New York, et pourquoi venait-il à New York? Était-ce uniquement pour les dollars? Est-ce que Breton avait eu raison avec l'anagramme de Dali à Vida Dollar? J'ai senti tout d'un coup une grande pitié pour lui, et que je considère comme un véritable artiste, un grand artiste même, et qui se croyait tout le temps obligé à des extravagances dont il n'avait en vérité aucun besoin. Et j'ai gardé le souvenir de cette rencontre, et quand je suis retourné à Paris en 1951, mon éditeur d'alors me dit « Est-ce que ça vous intéresserait de rencontrer Dali à dîner un soir ?» Et c'était, bon, je dis tout, c'était à Neuilly, chez Arturo Lopez. Et bon, c'était un petit dîner ennuyeux où il y a 20 personnes, personne ne se parle, où il y a une seule personne qui parle et qui ennuie tout le monde. Enfin, c'était assez horrible. Et tout d'un coup, mon éditeur qui était là à côté de moi me dit, mais il y a un problème, c'est que Dali a écrit un livre qui s'appelle « La vie secrète de Salvador Dali » par Salvador Dali. Il faut que ce soit dans le titre en entier. Et que le livre a été édité aux États-Unis par un homme tout à fait remarquable qui s'appelait, qui peut-être s'appelle toujours, mais ça m'étonnerait, Haakon Chevalier, et qui était un grand ami d'Oppenheimer, l'homme de la bombe atomique. Et Haakon Chevalier en avait fait une traduction absolument littérale qu'on m'a donnée, qui était très illustrée, c'est une édition absolument superbe. Illustrée à chaque page de Dali, de pensées de Dali, de petits dessins de Dali, d'extravagances de Dali, et ça, et pendant 500 pages. Et en fait, ce qu'on me demandait, c'était d'en faire la traduction. Alors je dis, mais ça, c'est quand même un tout petit peu tiré par les cheveux, parce que le livre que vous me montrez, il est traduit de Dali. En quelle langue écrit Dali ? Elle m'a dit, mais Dali est écrit en français. Curieux pour ce cas-là. Il écrit en français et plutôt assez bien. Enfin, c'est très lisible parce qu'il écrit en lettres capitales, ce qui ralentit un tout petit peu le travail de l'artiste. Et alors, je dis, mais moi, je voudrais bien voir le manuscrit. Il n'y a rien de plus facile. Et on m'apporte un torchon, 500 pages, sur des feuilles, vous savez, volantes, comme on avait autrefois pour la deuxième ou troisième copie. Et je regarde ça, je dis, mais c'est extrêmement intéressant et rien n'est... Et ce qu'il faut, c'est le rendre intelligible pour le public. Le livre d'Hakon Chevalier est un document incomparable, mais la plupart du temps, on le quitte, on n'en peut plus, Dali parle trop, il s'empêtre les pieds, je veux dire la main ou la plume, et il faut arriver à faire quelque chose qui soit accessible à un grand public. Et bon, je lis tout, presque tout ce qu'il avait, et j'ai travaillé peut-être pendant, j'ai une secrétaire qui est venue là, chez moi, et en fait, plutôt que de l'écrire, je me suis dit, Dali, c'est quelqu'un qui aimait la parole. Et j'ai dit, je vais le dicter. Et j'ai repris depuis le commencement jusqu'à la fin tout ce manuscrit dans lequel il manquait des pages. Puis surtout, il y avait une histoire. Je me souviens qu'il durait 25 pages d'un type qui renversait un bac de ciment. Et tout ça, le bac de ciment pétrifiait Paris ou Madrid, je ne sais plus. Et c'était drôle pendant 10 lignes, mais pas drôle pendant 20-30 pages. Carrément, j'ai dit, bon, on m'a laissé champ libre. Et j'ai fait une première version de ça. Et j'ai dit, mais maintenant, il faudra peut-être que je lui montre. On m'a dit, ben, il est à Cadaquès, j'ai appelé. Il m'a dit, ben, venez, on va voir ça. Et j'ai pris une voiture et je l'ai pris tant de fois pour aller le voir après que je suis arrivé le soir et nous avons regardé ça. Il dit, mais c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire, c'est parfait, c'est très bien, changez rien, faites comme vous voulez. Simplement, je vous demande de rajouter quelques minuties exaspérantes. Ça, c'était pas trop difficile. Et là-dessus, on a publié en France la vie secrète de Salvador Dali par Salvador Dali. Adapté modestement, on mettait le nom de l'adaptateur, qui était devenu un ami de Dali. Moi, j'étais vraiment devenu avec lui, j'avais entièrement sa confiance. Et j'ai continué à faire des choses pour lui, de temps à autre des articles qu'on lui demandait. Et puis un jour, je lui ai dit, mais écoutez, vous peignez une partie de la journée, mais aussi vous écrivez. Et alors, ce qu'il y avait, j'ai oublié de le signaler, c'est que son manuscrit, que j'ai eu en main, son manuscrit, c'était des grands livres de contes, avec 25 lignes par page, mais des grands, grands formats, et écrit entièrement en capital, avec ponctuation, n'en parlons pas. Et l'important, c'est que ça ne signifiait rien si on ne se le lisait pas à voix haute en pensant à l'accent catalan. Et alors, en me lisant ces pages-là moi-même, à voix haute, je dis, mais voilà, c'est très clair. Il n'y a absolument aucun doute, simplement, il n'y a qu'à déplacer un peu l'accent. Et on a remis ça dans une langue française, je crois, assez lisible, puisque finalement, c'est l'édition qui a prévalu dans le monde entier. Et alors là, toute notre amitié a commencé à partir de ce moment-là, de sa confiance, n'est-ce pas ? Et je lui ai demandé, quelques années, deux ou trois ans après, je lui ai dit, écoutez, je sais que vous tenez un journal intime. Mais il dit, oui, oui, mais vraiment, c'est pas très régulier. Je lui ai dit, on pourra peut-être un petit peu coller, décoller, couper. Ça m'a donné toute la liberté. Et alors, voilà, le journal a paru. J'en suis aussi l'adaptateur. Il y avait des années dans lesquelles il n'y avait absolument rien. Alors, je lui ai conseillé, je lui ai dit, vous allez mettre votre signature Et puis moi, je vais mettre en note ces années-là d'aller travailler un tableau tellement génial qu'il n'était pas question d'écrire une ligne à côté. Alors, il y a 3 ou 4 années comme ça, qui sont des années blanches. Et ce journal qui est très intéressant, parce que c'est tout le travail d'un peintre, ce sont toutes ses réflexions, ce sont ses idées saugrenues, très souvent, et puis aussi, quelquefois, des choses très belles et très sensibles, et notamment sur son enfance, sa jeunesse, son premier ou son deuxième tableau, je crois, dans lequel il avait fait un peu de peinture et puis il avait mis de la colle, de la sécotine et collé des cailloux de la plage de Cadaqués. Et il paraît qu'il avait mis ça au mur dans la salle à manger et qu'un soir il faisait chaud et toutes les pierres se sont décollées. Et sont tombés faisant un grand bruit, interrompant le dîner. Et son père, qui était notaire à Figueras, disait « Voilà comment finissent les tableaux de mon fils. » Mais j'ai admiré que dans une famille qui lui était si étrangère à l'art, au surréalisme, bien sûr, il ait été accepté, compris, protégé, quelquefois avec protégé de lui-même. Et il a vécu dans une atmosphère très extraordinaire de tendresse et de sévérité et de rigueur. Et il y avait tout cela chez lui. Il y avait à la fois bon, la bonté, la générosité, et puis en même temps la rigueur. Et quand il a fait ses grandes toiles, j'ai été témoin de plusieurs d'entre elles, notamment de l'Ascension, dont il m'a donné le premier dessin d'ailleurs. Et je savais que c'était un artiste qui ne laissait pas grand-chose au hasard. Et qu'il travaillait, il a d'ailleurs écrit sur les matériaux, la peinture, les encres, les pinceaux, le papier. Il a écrit tout un livre, très beau, très intéressant, et qui montre combien il était préoccupé par ces questions, si vous voulez, ces questions assez étrangère au public, mais qui préside à la naissance d'un grand tableau. Alors, dans les années qui ont suivi, nous avons fait plein de petites choses ensemble, et je venais le voir à Cadaqués, il me téléphonait le soir. J'étais jeune, j'avais une voiture rapide, j'étais célibataire, et je traversais toute la nuit, j'arrivais à Cadaqués au petit matin, et alors là, il y avait... ou quelquefois le soir. Et si c'était le soir, il me recevait dans une cour où il avait toujours, il me dit, j'ai préparé des petites armures pour vous. En fait, c'était des langoustes. J'avais, pour chaque arrivée, et puis après ça, il dit, on va se faire un petit concert, je vais passer mon disque préféré. Et son disque préféré, qui était un vieux disque d'autrefois, 78 tours, et qui mettait sur un vieux phonographe. J'avais rien de nouveau, mettait sur un vieux phonographe. Et qu'est-ce que c'était? Je vous en demande pardon. C'était un concert de paix enregistré à l'Alhambra par le célèbre pétomane dont j'ai oublié le nom. Et ça le mettait de très bonne humeur. Et du coup, toute la soirée, généralement une partie de la nuit, nous parlions, disions des bêtises. Mais c'était la gaieté même, et en même temps, on disait des choses parfois très drôles. Je me souviens d'un jour où je reviens avec de la copie de lui, et je lui dis, vous savez, il y a quelque chose d'un peu ennuyeux, là. Vous avez écrit « Les géomètres ne bandent pas ». Elle me dit, bah oui, c'est vrai. Je lui dis, oui, mais si la corporation des géomètres apprend ça, ils vont dire dans leur corporation interdiction d'acheter le livre de Dali. Ah, bien, ça, il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dites qu'ils bandent peu. Bien, ah oui, je crois que comme ça, ils ne seront pas vexés. Et quand une conversation commençait comme ça avec lui, on pouvait être sûr que toute la soirée et toute la nuit, ça allait être la même drôlerie, la même invention. Et moi, j'aimais bien quand le matin, j'allais me baigner dans la baie de Cadaqués, et je me souviens d'un jour où je marchais avec lui, il était habillé en smoking tout l'été. Il avait un smoking tout l'été et des sandales, ou des souliers vernis. Il m'a dit, ça c'est mes souliers pour peindre. j'ai compris une chose, c'est que les souliers étaient trop petits et que quand il s'arrêtait de peindre, il pouvait ôter ses souliers. Mais il ne les ôtait pas avant d'avoir terminé ce qu'il avait juré de faire. Je me souviens, je marchais avec lui, comme ça, lui était difficilement, parce qu'il n'avait pas fini, il gardait encore ses souliers. Et il y a un enfant qui passe et qui lance des petits pétards devant nous. Et c'est bien que nous marchons, et nous marchons dans les pétards qui éclatent. Et je le regarde, et il me dit, c'est le petit Jésus. Et en fait, c'était l'enfant qui avait posé avec la Vierge dans son tableau. Mais le naturel avec lequel il disait ça, je trouvais ça absolument exquis et d'une grande gentillesse. Je voulais dire aussi une chose, c'est que là, j'ai l'air de raconter uniquement l'histoire d'un clown, mais en fait, c'était un homme d'une immense curiosité scientifique. Il ne lisait pas, mais pendant qu'il travaillait, sa femme, Gala, lui lisait un livre. Il lui lisait les journaux. Il était très au courant de tout ce qui se passait dans le monde. Il était très... je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler, ça doit être dans les années 51, 52, 53, le DNA. Et il m'a dit, vous savez, c'est une découverte absolument formidable. Vous allez voir, dans quelques années, on ne parlera plus que de ça. Moi, c'est resté juste dans un coin de ma mémoire. Mais j'ai pensé qu'il avait lu un article dans une revue scientifique anglaise ou française et qu'il avait tout de suite compris l'importance de cette découverte. Sur sa peinture, je suis toujours un petit peu chancelant, je ne sais pas, je connais son ambition. C'est très gênant de venir après Velázquez, c'est très gênant de venir après Raphaël, tous les peintres qu'il aimait. Il ne parlait pas du Gréco, parce que je ne considérais pas le Gréco comme un espagnol. Mais c'était vraiment quelqu'un qui avait choisi dans les siècles Raphaël, Velázquez, bien sûr très espagnol lui-même, voulait absolument mettre Velázquez tout à fait au premier rang, ce qu'il est d'ailleurs, mais enfin c'était toujours sa conversation. Et je crois que c'est un homme d'une culture tout à fait insoupçonnée et qui a maîtrisé dans son discours et dans sa peinture. Il a maîtrisé parfaitement le passé et le présent. Voilà, je voulais lui rendre ce petit hommage pour vous dire que je ne sais pas si c'est un très grand peintre, mais je sais que c'était un homme éblouissant. Voilà.
C'était Michel Léon de l'Académie française. Il évoquait trois peintres de son cœur, à savoir Édouard Manet, Georges Braque et Salvador Dali. Cette communication s'est déroulée en mai 2009 à l'Académie nationale de médecine. Restez à l'écoute de nos émissions et téléchargez sur Canal Académie nos émissions en compagnie de Michel Léon. Il nous conte Dali entre écrit et fou rire. Il nous raconte Valérie Larbaud et puis une émission en habit vert est consacrée à l'académicien. Toutes ces émissions sont en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademie.com. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.